Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour ce nouveau magazine de la moto sur le 106,6 de Radio Campus Lille ou www.campuslille.com. Le tout terrain au sommaire du magazine de la moto avec un très grand connaisseur, Guy Pilarczyk. Guy, bonjour.
Merci, bonjour la biche. En effet, le fil conducteur est super rempli aujourd'hui.
Ah ouais, je pense qu'il va falloir respecter les temps de parole. Hein.
Ouais, ouais, et surtout un certain Gilou, hein, parce que lui, voilà. Quand il parle...
Donc on va parler de sidecar cross, parce qu'on risque en 2020 de ne pas avoir d'épreuves de sidecar.
En France.
En France, tout au moins.
Alors qu'en France, on fait assez régulièrement deux Grands Prix. Donc on a discuté avec Gilou et avec Guillaume Coipeau, qui est le président du motoclub de Brou, qui veut organiser l'année prochaine un Grand Prix, mais devant... L'argent demandé, c'est...
C'est un problème d'argent.
De promoteur.
De promoteur, voilà.
Ensuite, nous allons avoir un Picard, Fatal Picard, Maxime Renaud, qui est pilote de motocross, et puis il nous parle de sa saison en MX2, où il a fini 7e, mais il y a quand même un palmarès assez grand en championnat de Picardie, en championnat de France et en championnat du monde. Ensuite, Éric Poiré, c'est l'auteur d'un livre qui vient de sortir sur les 45 ans de l'enduro du Touquet. On va l'avoir en direct au téléphone. Ensuite, Kevin Frélo nous parle de son site dédié au motocross. C'est Daily MX. C'est tout récent, mais c'est bien fourni. Ensuite, Marco, c'est un pilier de Memo Motocross.
Et qui est avec nous aujourd'hui dans les studios.
Oui, oui, bonjour. Voilà. Bonjour à tous.
Et il va nous parler de Joël Robert.
Ouais, le grand Joël Robert.
Hein, parce que quand on parle motocross, Joël Robert, c'est un mythe.
Moi, je connais pas. Écoute, je suis pas un spécialiste de motocross, moi. Ouais, c'est une légende. Ah, d'accord. Oui. Ben alors, oui, faut parler des légendes alors.
Faut parler des légendes.
Et il habite pas loin de chez nous.
Ouais. C'est un Belge.
Voilà. Et ensuite, on aura Pascal Audicaire. Pascal Audicaire, tu connais. C'est un grand reporter de motocross qui va nous parler du calendrier 2020 des Grands Prix de moto. Et ensuite, si on a le temps, on revient avec Gilou, qui va donner son point de vue sur les forces en présence dans le championnat du monde 2020.
Voilà, c'est le programme de ce magazine de la moto aujourd'hui. Et on salue notre technicien de bord, c'est Laurent, bonjour.
Bonjour à tous.
Let's go!
parmi la foule des supporters du motocross. Tu es le roi.
Voilà, c'est honneur à Joël Robert. Et nous, au téléphone, on a Gilou de Mes Motocross. Hein. Et c'est un site internet, une bible.
Et n'oublie pas, c'est la rubrique Deux mots en quatre temps.
Deux mots en quatre temps.
Voilà.
Salut Gilou.
Oui, bonsoir à tous. Bonsoir Guy, bonsoir Lamiche, bonsoir tout le monde. Bonsoir Marco, je crois qu'il est...
Salut Gilou.
Oui, il est là, Rémi Marco.
Et oui, je suis là.
Ouais, alors, je sais bien.
Écoute, bon. Excuse un peu le retard, hein, parce que tu sais pourquoi. Hein, tout est embouteillé ici à Lille. Il y a de la neige et tout, tu vois.
Bah, écoute, c'est pour ça que je n'ai pas venu finalement, alors.
Oui, bah, tu pouvais venir en bus.
Je ne sais pas, mais bon, finalement, hein, ouais. Ça sera pour une autre fois le train que tu il a été annulé. Donc voilà, on a fait comme ça.
Ok. Bon, ouais. On va commencer parce que sinon...
Oui, je t'écoute.
On va parler de ce fameux problème du calendrier du championnat du monde de cyclocross,
oui.
Qui, à cause d'un promoteur, crée pas mal de problèmes. C'est-à-dire que sur les 12 Grands Prix envisagés, nous n'avons que 6 Grands Prix. Alors, parce que ce promoteur demande... un certain pourcentage sur les entrées qui peuvent monter à 25 000 euros. Donc la plupart des clubs ne peuvent pas aligner cette somme.
Absolument, parce que donc, ce qu'il faut dire, c'est ça, c'est que c'est le cyclocross, c'est marginal déjà dans le motocross. Faut voir que, par exemple, je sais que vous êtes beaucoup sur la station avec la vitesse. Un grand prix de vitesse par rapport au motocross, le rapport il est déjà de 1 à 10. C'est-à-dire que lorsqu'on a 10 000 personnes au Grand Prix de France de motocross, on a 100 000 au Grand Prix de France de vitesse. Et le cyclocross par rapport au motocross, le rapport en gros c'est de 1 à 3. Quoi. C'est-à-dire on a 3 000, quand il y a 10 000 personnes au Grand Prix de France de motocross, il y en a à peu près 3 000 pour le Grand Prix de France de cyclocross. Donc c'est quand même une marginalité dans la marginalité, si je puis dire. Ce qui fait que les recettes, c'est pas extraordinaire, quoi. Les billets, etc., les billets d'entrée, ça va pas très très loin, quoi. Et là, le gros souci avec la FIM qui a négocié un contrat avec le promoteur, ils se sont retrouvés avec un contrat de 4 ans pour les organisateurs, et c'est le promoteur qui dit aux organisateurs, ben maintenant c'est moi le patron. Et voici pour organiser un grand prix. Donc, comme tu le disais, il demande une somme au départ de base de 25 000 euros. Alors, plus un pourcentage sur la billetterie. Et donc, ça, c'est pas possible. Et ça s'est pas très bien passé dans les négociations, dans les discussions, etc. Et puis, le résultat, c'est qu'on l'a vu, le calendrier, comme tu le disais, il est sorti. Alors, il y a 12 dates de sortie hein, pour le calendrier 2020 des grands prix. Mais effectivement, il y a que 6 grands prix qui sont confirmés pour l'instant. C'est-à-dire, c'est des grands prix, ben, on va dire, de l'Est. Hein. Il y a République tchèque, la Slovénie, l'Ukraine, voilà, plus l'Estonie. C'est quand même des grands prix assez axés, si je puis dire, avec le promoteur qui, je rappelle, est tchèque. Hein. Martin, il s'appelle, le promoteur, c'est Martin Benes.
Et qui aime l'échec, hein, c'est ça.
Ouais. Bah, oui, mais bon, le souci, c'est que ce promoteur, on lui a. C'est la FIM au départ qui a joué le truc, parce que la FIM avait les droits du sidecarcross et ils l'ont cédé au promoteur. Et le sidecarcross, je pense, n'avait pas besoin de ça. Parce qu'encore une moto de cross, les gens, je sais pas, on peut acheter une moto de cross, on peut avoir envie, mais un sidecar. Il n'y a pas beaucoup de gens. Le marché du commercial du sidecar cross, c'est quand même assez limité. C'est vraiment des amateurs qui aiment ce sport. Et qui
ouais, c'est des niches hein, de constructeurs et de...
Ah, voilà, c'est vraiment un sport particulier, le sidecar cross. Et c'est vraiment... Moi, j'aime ça. Hein, c'est un beau spectacle. Mais là, je pense que la FIM a fait une connerie. Hein, on ne va pas dire un autre mot. Hein, c'est en faisant ça. Alors maintenant, on dit toujours au loup, mais bon, on voit le résultat. L'année dernière, par exemple, le championnat du monde, tu avais 14 Grands Prix. Hein, 14 Grands Prix, 2 Grands Prix de France, et tout le monde s'en sortait. Mais là, les clubs, ils doivent payer. Alors déjà, ils payent les droits fédéraux pour la FFM et puis la FIM. Mais c'est en plus, il faut qu'ils payent pour le promoteur, c'est pas possible. Et le problème, c'est qu'on avait un Grand Prix de France annoncé pour Brou en 2020. Et ben, le président de Brousse a dit non, c'est pas possible, quoi. On peut pas, parce qu'on met le club en danger, et c'est le gros risque qu'on court, notamment en France, au niveau des charges, au niveau des normes de sécurité, tout ça. Il y a beaucoup de choses qu'on doit payer, que dans d'autres pays, éventuellement, ils ne payent pas, ou alors que c'est l'État qui paye.
Oui, ben, là, c'est voilà, dans les pays de l'Est, c'est souvent... le ministère des Sports qui paye.
Voilà, ils n'ont pas une politique sportive identique à ce que l'on fait nous en France. Alors, les clubs ne peuvent pas suivre. Hein. C'est absolument impossible à tenir pour l'année prochaine. Alors, il y a une date qui est arrêtée pour la France, c'est le 28 juin. Pour un Grand Prix de France en France, donc, c'est le 28 juin. Mais pour l'instant, on ne sait pas. Alors, a dit non et que c'était terminé, il ne ferait pas le Grand Prix de France pour l'année prochaine. Ifandic, paraît-il, est sur les rangs, c'est-à-dire qu'il serait toujours en train de négocier. Alors là, j'avoue que je ne comprends pas trop, parce que pourquoi pour Brou, ce n'était pas possible, et pour éventuellement Ifandic, ce serait possible. Je ne vois pas. Là, il y a des choses qui m'échappent. Et puis en plus, on se retrouve avec une fédération qui doit défendre les organisations en France, la FFM. Et puis, alors là, ce qui me gêne un petit peu, et ce que je ne comprends pas trop, c'est l'attitude du président, Jacques Boll, parce qu'il est à la fois président de la Fédération française, donc il défend des clubs, les organisations en France, mais il est vice-président de la Fédération internationale, c'est-à-dire qu'il est quelque part, il est co-signataire de la signature du contrat du promoteur qui cause tant de soucis au club. Alors, c'est difficile à comprendre tout ça. On est tombé des nues. On avait un petit peu peur. Je me souviens que dans une émission précédente, il y avait le président de Plomion, je crois, qui s'est exprimé à la radio. Et il disait ses craintes lorsqu'on parlait d'un promoteur qui arrivera en sidecar cross. Ben voilà, aujourd'hui, on se retrouve confronté à ça. Alors, l'avenir, est-ce qu'il y aura un sidecar cross en France l'année prochaine? Rien n'est moins sûr. Il y a une date d'arrêté, c'est le 28 juin pour peut-être Ifandic alors, mais s'il n'y a pas Ifandic, il n'y aura pas de Grand Prix de France l'année prochaine. Et puis les Allemands qui avaient des Grands Prix de programmer, c'est pareil, pour l'instant c'est en discussion et c'est plutôt non. Donc vraiment le sidecar cross est en danger, c'est vraiment dommage.
Et c'est comme la Belgique, Lommel, c'est pas encore signé non plus. Hein.
C'est pas encore signé, voilà. C'est annoncé, mais c'est pas encore officiel, complètement terminé. Alors,
Il y a une chose aussi, Gilou, ouais. C'est les équipages, parce qu'au niveau des sponsors, ils sont un peu...
C'est difficile. Aujourd'hui, j'imagine l'équipage qui veut aller voir un sponsor en disant, ben voilà, imaginons en France, je vais faire le championnat du monde. Ah oui, alors l'exposition, ça va être en Ukraine. Ça va être. Est-ce qu'en France vous allez courir? On ne sait pas. Donc c'est difficile. Voilà, je pense qu'à ce moment-là, les sponsors vont dire écoutez, vous reviendrez nous voir quand vous serez au courant. Et c'est un petit peu. Tout ça, c'est. Je trouve que c'est vraiment un gros flop, un gros ratage, parce que ça devait être négocié avant. Et je pense que dans tous les projets, il faut fédérer les acteurs, donc les organisateurs. C'est-à-dire, je me souviens, lorsque là, il y a eu une réunion, la première réunion qui a eu lieu à Genève en début d'année, même les présidents, notamment Jean-Marie Boissonneau, le président de Saint-Jean-d'Angély, qui eux aussi avaient organisé des grands prix de sidecar dans le passé, n'étaient même pas au courant qu'il y avait une réunion. Donc, alors que potentiellement, ils peuvent dans l'avenir organiser des grands prix de France de sidecar. Donc tout ça, c'est un petit peu gênant. En plus, on fait une réunion en Suisse, mais bon, le président, s'il veut venir, il vient à ses frais. Hein. Donc, Debroux, tu vas en Suisse et tu restes pour 2 jours, par exemple. Bon, ça fait quand même un coup.
Et la réunion, elle est en anglais, en plus.
Et puis, la réunion est en anglais. Bon, de toute façon, ça, malheureusement...
Il ne faut pas qu'il y ait des grèves de train, aussi.
Et puis, voilà. Non, mais ce qui me gêne dans tout ça, c'est que... on voit qu'il y a... Ça a été négocié à un haut niveau entre la Fédération internationale et puis le promoteur, mais que derrière, c'est un petit peu de débrouillez-vous, hein, faites en sorte que ça marche. Ah oui, mais c'est pas...
Oui, parce que, tu sais, j'avais contacté Patrick Salder, qui est membre de la commission Cross à la FIM.
Il y était, lui, à la réunion.
Ouais, mais il m'a dit, nous, on peut rien faire, quoi. Hein. Écoute, cette commission de Cross... À part de changer une virgule de temps en temps au règlement, ils servent, je sais pas.
C'est très bien. D'abord, là où j'étais étonné, parce que depuis je me suis pas mal renseigné, j'étais étonné que, par exemple, il n'y ait pas quelqu'un qui s'occupe réellement du site Carcross, ne serait-ce qu'à la Fédération française. Il n'y a pas un représentant du site Carcross. C'est dans le motocross. Alors, voilà, on est en train de... On a vu un petit peu les conséquences qui se sont passées avec le motocross, avec l'arrivée d'un promoteur. Hein, il y a quand même eu beaucoup, au niveau de l'argent, ça fait mal. Et là, ce que tu as craint, c'est que des prix d'entrée qui étaient à 25 euros passent à 35 euros, qu'on ait un paddock payant, qu'on aille sur ce système-là. Et je suis pas sûr que le SICAR puisse supporter ça.
Gilou, oui. On a dépassé le temps et oui. Je vais avoir Guillaume. C'est Guillaume Coipeau. Hein.
Oui, le président du motoclub de Brouwer.
Je vais lui poser la question. Niveau.
Il connaît parfaitement le sujet, heureusement, et c'est vraiment un bon, lui. Hein.
Ouais,
il est
ouais.
Très, très bon. Ouais.
Alors, à tout à l'heure, peut-être, Gilou.
Ah, peut-être.
Ah. Alors, ok.
Allez, je vous embrasse.
Merci. I'm begging you, pleading you, down on my knees.
Et au téléphone, on retrouve Guillaume Poimpeau.
Oui, qui est président du motoclub de Brou et qui organise régulièrement des grands prix, dont des grands prix de sidecar cross. Bonjour, bonsoir Guillaume.
Bonsoir, oui, effectivement. Donc voilà, je suis Guillaume Poimpeau, président du motoclub de Brou en Eure-et-Loire. Et donc organisateur depuis de nombreuses années de grands prix, Grand Prix Sidecar.
Il y a eu 15 grands prix hein, sur le terrain d'Étonne, Grand Prix de 50, 500 et Sidecar. Hein.
Voilà, entre les grands prix solo et Sidecar, voilà, on a une quinzaine de grands prix à notre actif. Quoi.
Et est-ce que tu sais que Brou a été élu meilleur circuit lors d'un sondage dans un livre sur le cross en 1980?
En 1980, j'étais pas né.
Ah.
Je suis de 86, mais effectivement, j'ai eu des retours par rapport voilà, au classement numéro 1 du circuit.
Et second en termes d'organisation.
Ah, ça par contre, vous me l'apprenez.
Ouais,
bon, c'est... Je sais voilà, on fait notre maximum, on a une bonne réputation en tant qu'organisateur, mais de là être dans les premiers...
Ah, c'est... comment pour organiser des grands prix, vous êtes bien placé. Mais cette année, pour l'année prochaine, problème, vous avez postulé pour un grand prix de sidecar cross. Et entre-temps, la fédération a vendu, vendu à un promoteur tchèque l'organisation complète du championnat. Donc sur les 12 grands prix. Qui devait se dérouler, seulement 6 grands prix, des pays aussi de l'Est, et surtout qu'en France, régulièrement, il y avait 2 grands prix de sidecar cross.
Oui, nous, on a organisé le dernier en 2016, et c'est vrai qu'aussitôt, on avait re-signé une candidature pour justement 2020. Et en effet, ce qu'on redoutait le plus, c'était l'arrivée d'un promoteur. Hein, on savait qu'un jour ou l'autre, ça allait arriver. Malheureusement, c'est arrivé en mai dernier. Hein, et nous, on était prévus en 2020, donc on savait que les choses allaient se compliquer à ce niveau-là. Surtout financièrement, on l'a vu dans le passé avec le motocross, les grands prix motocross. Malheureusement, ça arrive au sidecar et c'est pas le même milieu et ça nous touche tous quoi.
D'accord. Parce que bon, comme le promoteur là demandait des sommes un peu astronomiques, comme par exemple 25
voilà,
000 euros
dans
quoi.
Dans un premier temps, en fait, on savait qu'il allait avoir de l'argent. La première proposition, c'était déjà 25 000 euros d'entrée de jeu quoi. Donc sachant que c'est il y a les 25 000 euros, bon c'est une chose. Après, il se déplace pas tout seul, il se déplace avec un staff, il est là plusieurs jours, donc faut nourrir l'équipe, faut les héberger, donc c'est encore un coût à
les blanchir.
25 000 euros. arrivé aujourd'hui, il y a eu vraiment beaucoup de propositions de fêtes avec lui, de négociations. Malheureusement, il y a rien qui aboutit. Il faut savoir qu'il n'y a toujours pas de cahier des charges de fait par rapport à l'organisation. Donc nous, on arrive à 6 mois de notre événement de la Pentecôte. Donc forcément, c'est très compliqué.
Oui, en effet. Hein.
Ouais.
Et par exemple, au niveau de la Fédération française de moto, elle, qu'est-ce qu'elle dit là-dessus? Parce que bon.
Déjà, la FIM, hein, la FIM s'est débarrassée du championnat. Hein, pourquoi, je pourrais pas vous l'expliquer. On a très peu d'écho, on a beaucoup de questions, on n'en a jamais les réponses. Moi, à première vue, la Fédé, c'est pareil, entre la Fédé, enfin la FFM et la FIM, il se passe pas grand-chose. Quoi. On est vraiment mis de côté et faut se débrouiller. Quoi.
Mais par exemple, le président de la FFM, il est aussi vice-président de la FIM. Hein, il est quand même pas responsable, mais quand même, il devait connaître ce problème en France avec l'arrivée d'un promoteur.
Voilà, le problème, on parle de la France, ça nous concerne. Il faut savoir qu'il y a plusieurs pays dans la même situation que nous, hein, l'Allemagne, la Suisse. On est tous au même stade. Après, par rapport à, voilà, à la Fédé, bon, je pense que bon, la FIM a signé une feuille blanche avec le promoteur et la Fédé n'en sait pas plus. Maintenant, ils n'ont plus la main dessus et je pense que retourner en arrière, c'est compliqué, quoi.
Et par exemple, vous, quand vous faites un Grand Prix, vous faites combien de au niveau de spectateurs 5 000,
bah c'est aléatoire. Hein. Bon, quand on fait, allez, on fait 3 000 entrées, bon, c'est déjà un bon Grand Prix. On retombe sur nos pattes, comme on dit. Après 2016, on a fait un super Grand Prix parce qu'il y avait vraiment tout qui était rassemblé pour réussir. Hein. On avait la météo, il y avait qu'un Grand Prix, il y avait l'équipage
Musset qui
roulait devant.
Ouais, c'est
voilà.
Sûr. Ouais, ouais.
Donc c'est vrai qu'on a fait un beau Grand Prix et là voilà on fait 4 500 entrées, mais c'est vraiment exceptionnel, quoi.
Parce que Brou est quand même connu le circuit pour le sidecar cross, hein. Parce qu'il y a des régions comme ça en France où le sidecar cross est très apprécié.
Ouais, voilà, c'est vrai que nous on est une région à sidecar, hein, on marche mieux avec du sidecar qu'un solo. Après, géographiquement, on est bien situé, hein, on touche tout l'ouest de la France, le centre, et puis on a quand même beaucoup de supporters à chaque fois, belges, hollandais, allemands, qui descendent jusqu'à Brou quand c'est un Grand Prix, quoi. Donc c'est intéressant quand même, mais voilà, ça devient compliqué.
Par exemple, j'avais contacté Plomion, hein, qui fait des grands prix de sidecar cross.
Ouais.
Également, il tourne aussi entre 3 000 et 4 000 personnes. Et avec l'avantage d'avoir des Belges et des Hollandais qui sont tout prêts.
Voilà.
Hein, et surtout, et aussi, bon, peut-être dans une moindre mesure, quand Nicolas Musset était en tête du championnat, quoi, ça faisait quand même ramener... Un peu plus de monde, quoi.
Oui, bah oui, forcément. Nous, c'est pareil. On avait Valentin Giraud qui, malheureusement, s'est blessé. Bon, Valentin, c'était 1 000 personnes avec lui.
En plus, hein, ah ouais, c'est certain,
ouais.
Sûr,
hein. Ah, oui.
Parce que c'était donc, quand même le premier Français à arriver à ce niveau-là, quoi. Hein,
Ouais, voilà. Bon, on a des bons équipages français, mais Valentin, c'est vraiment lui qui se détachait du lot. Il s'était fait vraiment beaucoup de fans. Il était apprécié. Les gens le suivraient vraiment de très près, quoi.
Ouais, ouais, sur son forum, on pouvait suivre sa progression. Ouais. Bon, ensuite, bon... Il avait quitté son cousin, mais bon, c'est une histoire entre eux. Par exemple, alors donc, Ifendik, j'ai entendu parler que Ifendik serait en discussion avec ce promoteur.
Voilà, donc Ifendik, bah, en fait, ils organisent 2 mois après nous, ils sont en juillet, hein, donc nous, on est au mois de mai. Mmh. Bon, on va dire qu'ils ont un peu plus de temps, mais pareil, là, ils arrivent vraiment, on va dire... au maximum, et effectivement semaine dernière ils étaient encore en négociation avec le promoteur, puisque moi je m'entretiens régulièrement avec Gérard Le Thor, le président d'Ifendik, justement on s'entraide comme on peut, et voilà, donc lui il a refait une proposition effectivement, mais je pense que ça va se compliquer aussi, et puis le promoteur a l'air de savoir ce qu'il veut et de pas lâcher, quoi. Mmh. Donc
j'avais appris
pour moi,
que
malheureusement j'y crois pas trop, quoi.
Parce que j'avais appris aussi que lors de la réunion le promoteur a claqué la porte parce que bon, devant la tollée des organisateurs, quoi, hein, aussi.
Ouais, voilà, bah c'est vrai que tout le monde travaille dans le même sens, hein, tout le monde est contre ces propositions, mais et comme je vous dis, à chaque fois, il les revoit, et puis, mais bon, enfin, c'est loin de la réalité, donc c'est toujours le même problème.
D'accord.
Aujourd'hui, bon, et c'est comme on parlait des 25 000 euros tout à l'heure, hein, maintenant, c'est plus 25 000 euros, c'est des fixes. Bon, il y en a eu beaucoup, par exemple, à 5 000 euros, mais après, ils demandent des 50% sur la billetterie.
Oui, et puis après, vous ne pouvez pas augmenter le prix des entrées, sinon...
Voilà, alors après, lui, c'est ce qu'il dit. Hein. Il dit qu'il faut monter le prix de l'entrée à 30, 35 euros.
Ah ouais, non,
c'est
mais...
très bien que le public ne répondra pas.
Ah ouais, c'est sûr.
Ouais. Mmh. Ouais, nous, quand on applique déjà des tarifs à 22, 25 euros pour un grand prix, pour nous, c'est le maximum.
C'est
bien sûr qu'on pourrait,
ouais,
mais on peut pas faire plus pour le public, c'est impossible.
D'accord. Bon ben Guillaume, on te remercie de ce petit. On aura l'occasion de toute façon, suivant ce qui va se passer un peu plus tard, si le
voilà, ouais.
Si le calendrier se fera ou pas. Excuse un peu le retard parce que bon, c'est aussi peut-être suite aux grèves, hein, comme partout, parce que c'est une émission qui est enregistrée, elle aura lieu dimanche. Mais on aura l'occasion de se rappeler et puis on verra un peu comment l'affaire.
Ouais, il n'y a pas de souci, avec plaisir.
L'affaire aboutit. Et voilà, ben, c'est nous qu'on vous remercie d'avoir prêté attention à notre émission Kick
and Coup. Il n'y a pas de souci.
Guillaume, je voilà, te souhaite une bonne soirée.
À vous aussi.
Salut.
Bonne continuation, merci.
Merci.
Au revoir.
Amis motards,
vous allez organiser un événement moto en 2020.
Pensez au calendrier Kick and Coup.
Transmettez-nous vos infos.
On les publiera gratuitement dans le calendrier des motoclubs.
Comment faire ?
Tapez K1C sur Internet.
Et vous trouverez sur notre site le formulaire adapté.
Ou tout simplement, vous nous envoyez votre texte à l'adresse mail suivante.
calendar@k1c.fr calendar@k1c.fr
téléphone, nous avons Maxime Renault qui est pilote de motocross et qui nous parle de sa saison en MX2.
En effet, bonjour Maxime.
Bonjour, bonjour à tous.
Salut. D'abord, je vais quand même te donner ton palmarès parce que bon, j'ai une page complète, hein, mais je vais faire rapide. Et si je me trompe, ouais, tu me le dis. Alors, tu es né le 17 mai 2000. Un an plus tard, tu étais déjà au bord des pistes avec ton père qui était crossman.
Ouais.
En 2007, tu te lances dans le championnat de Picardie parce que tu habitais les Ardennes d'abord ou tu es venu en Picardie?
Ouais, alors en fait, je suis né dans les Ardennes à Sedan.
Ouais.
Et après, mes parents ont déménagé, ont changé de travail en fait et repris une boucherie en Picardie. Donc on va dire qu'à deux ans, je suis arrivé en Picardie.
Ah d'accord.
Et derrière, j'ai fait toute ma jeunesse en Picardie.
On peut dire que tu es un fatal picard, alors.
Ouais, c'est ça.
Alors, tu faisais les championnats de Picardie, et puis tu as eu 4 titres en Picardie, en 50 cm cubes, ouais, 65 cm cubes et 85. En 2012, championnat de France, t'es champion de France, pardon, en 85 cm cubes. Ok,
ouais,
hein. Et toujours sur Yamaha, hein.
Toujours sur Yamaha, ouais.
Voilà. En 2015, tu es champion du monde junior 125.
Ouais, c'est ça.
Et tu termines troisième au championnat d'Europe EMX 125. Et en plus, tu remportes l'Enduropal en junior 2015.
C'est ça, exactement.
Alors en 2018, là j'ai un trou, je ne sais pas si...
Petit problème alors technique.
Allô, allô,
oui. On a une coupure de faisceau, Guy.
Ouais, elle est raccrochée. C'est raccroché.
On va passer. Moi, je te propose de passer un morceau de musique et puis on va essayer de retrouver Maxime,
ouais, d'accord,
au téléphone.
Ouais.
Shining
a retrouvé Maxime, hein, qui était perdu sur les ondes.
Perdu sur les ondes, mais ça vient aussi peut-être de la grève ici dans le Nord. Hein, parce qu'on est à feu et à sang ici, Maxime.
Ouais, alors ça vient peut-être pas de la grève du Nord parce que je suis en Italie. Et non, je pense que c'est plutôt je connais pas trop les coins où ça passe bien. Et voilà, ça y est, je suis
Ah, d'accord.
Retour.
Et ouais, tu te rends en Sardaigne hein, pour rouler.
Ouais,
hein,
alors là, je suis arrivé en Italie. J'ai déjà commencé par faire deux jours de tests aujourd'hui et hier.
Ah, d'accord.
Je suis à proximité de mon team, en fait, qui est italien.
Qui est italien,
ouais. De Bologne. Mmh. Et après, on part en Sardaigne le 8 pour y passer quasiment deux mois en décembre et en janvier.
D'accord. Et, bon, on était en 2015... En 2018, qu'est-ce que tu as fait ? Parce que j'ai pas.
Alors en 2018, c'était mon année de retour parce que ouais. 2016-2017 ont été vraiment des années compliquées. J'ai eu deux grosses blessures à l'épaule et ça m'a vraiment mis en dehors des terrains pendant ces deux années. Donc 2018, on va dire année de reconstruction avec le championnat d'Europe 250. J'ai quand même réussi à monter sur le podium en Belgique, au Grand Prix de Belgique, à Lommel.
Ah d'accord.
Où je finis deuxième. Et voilà, c'était un peu l'année de reconstruction, donc voilà.
On va revenir, on est en 2019, pardon. Tu as fait le championnat du monde MX2 et tu termines septième.
Ouais,
avec un podium quand même, sur la troisième marche du podium en Turquie.
En Italie.
En Italie.
Et après, j'ai fait donc, ouais, plusieurs manches sur le podium, dont une en Turquie et une en Indonésie, où j'ai fait deux fois deuxième et une fois troisième en Suède.
Ah ouais, c'est vrai. Ouais. En plus, bon, tu as remporté la première épreuve du championnat de course sur sable à Longplage. Hein, tu connaissais un peu déjà parce que tu l'avais gagné en 2000 que je raconte pas en 2015, c'est ça ?
Ouais, c'est ça.
Et puis cerise sur le gâteau, tu as remplacé Tom Vial pour ce problème de casquette et
ouais.
Tu as fait partie de l'équipe de France de motocross des nations. Donc
ouais,
une bonne saison alors.
Ouais, c'était une bonne saison, bon, c'était une belle opportunité le remplacement entre guillemets en équipe de France. Après voilà, c'était un remplacement, ben c'est Pascal Fino qui m'a appelé pour me parler de ce problème de casquette. Après on va dire, bon, Tom a fait une bonne saison aussi, il avait du bon matériel parce qu'il était sur la KT Red Bull dans un team officiel. Donc forcément ça l'a un peu aidé, il a fait des résultats un peu meilleurs. Mais en fin de saison, on pouvait voir qu'on était plus ou moins en bagarre quasiment à chaque fois. Donc non, c'était, on va dire, un second choix, mais j'ai donné tout ce que je pouvais aux nations et voilà, on a malheureusement eu un peu de problèmes mécaniques, ce qui nous a sorti du podium, mais on était en bagarre pour le podium, pour la deuxième place jusqu'à la dernière manche.
Oui, jusqu'à la dernière manche, oui. En effet,
justement, ouais. Maxime, pour revenir aux nations, qu'est-ce que tu ressens quand tu roules pour l'équipe de France ? Quel est ton ressenti ? Est-ce que c'est différent de faire un Grand Prix ou de faire partie de l'équipe des nations ?
Alors, donc c'est différent et pas à la fois, je vais dire, parce qu'on se retrouve tout de même avec les mêmes pilotes. Il y a juste les Américains en plus qui viennent pour cette occasion et qui ne sont pas sur le championnat habituellement. Donc on se retrouve avec les mêmes pilotes, les mêmes pistes, parce que ça se faisait à Assen, une piste qu'on a déjà roulée en Grand Prix. Donc pour ce côté-là, ça change pas. Ce qui change, c'est quand même qu'on se bat pour notre pays et on roule sur des manches en même temps que les 450, donc avec nos 250.
Ouais, en plus, ouais.
Et là, on s'est sûr d'avoir le maillot tricolore.
Et mentalement, psychologiquement,
Ouais, d'avoir le maillot tricolore sur le dos, c'est sûr que ça fait quelque chose. Mentalement, psychologiquement, on veut vraiment donner le meilleur de nous-mêmes, quoi.
Bah,
que ce soit pour les trois pilotes. Et se battre vraiment jusqu'à la fin pour le pays, quoi. Donc non, on a donné vraiment tout ce qu'on avait. Et c'est sûr, c'est une pression supplémentaire, mais ça peut se transformer en pression positive.
Ouais, tout à fait. Par contre, pour revenir à ta saison, je me rends compte que t'es parti crescendo, en fait, parce que l'Argentine et l'Angleterre, c'était pas au top. Hein, c'était le tout début de la saison. Et puis, par contre, ça a monté progressivement. Moi, je t'ai vu rouler à Lommel. J'étais content de voir ce résultat, parce que Lommel, c'est toujours une piste qui est hors du commun. Hein. Et puis, j'ai apprécié cette saison.
Alors, le départ crescendo, c'est sûr. Déjà, je suis arrivé en début de saison, forcément avec encore un déficit de course, on va dire. J'étais encore, entre guillemets, en reconstruction de ces années 2016-2017 compliquées. Ça a monté crescendo aussi dû à beaucoup de problèmes mécaniques en début de saison, dont en Argentine une manche où je casse l'amortisseur dans un appel de saut et où je suis vraiment tombé très fort, et la seconde manche où au troisième tour j'ai perdu mon frein arrière, donc j'ai vraiment pas pu donner ce que je pouvais sur ces deux manches. Après en Angleterre pareil, en première manche je casse le moteur dans le dernier tour alors que j'étais sixième. Donc on va dire début de championnat vraiment un peu malchanceux et pas super. Ouais. Mais ouais, derrière, ça a bien...
Ouais, parce que c'était un point et trois points aux deux premiers Grands Prix.
C'est ça.
Et alors,
derrière, ça a construit dans le bon sens. On a tous travaillé dur parce que le team aussi avait beaucoup à travailler. Mais au final, on s'est retrouvés tous les deux dans la bonne voie et voilà, on a fait du bon boulot en fin de championnat.
Est-ce que tu penses que, par rapport à la Yamaha de Yago Girs, est-ce que tu penses qu'il y a des différences au niveau réglage ou pièces que lui dispose et que toi tu n'as pas?
Alors oui, il y avait une grosse différence au début de saison. Enfin, début de saison, je veux dire quasiment toute la saison. Parce que Yago Girs, c'est un pilote officiel. Il dispose du coup du matériel officiel. Donc forcément, c'est la meilleure, meilleure c'est... option, enfin, ah ouais. le meilleur moteur que Yamaha peut sortir. Donc oui, pendant toute la saison, il y a eu vraiment une grosse différence. Par contre, en fin de championnat,
l'écart s'est réduit, hein, franchement.
Ouais, l'écart s'est réduit et sur les deux dernières courses en Turquie et en Chine et aux Nations, j'ai pu disposer du matériel officiel. Donc les mêmes moteurs que Gertz et Watson, qui sont tous les deux en team officiel. Et j'aurai d'ailleurs ce matériel-là pour la saison prochaine.
C'est une bonne nouvelle.
On va pas dire qu'ils se sont mis à croire en moi, mais on a vu que les résultats étaient présents et que ça pouvait faire quelque chose l'année prochaine. Donc voilà, ils ont décidé de me donner le bon matériel.
Bon, c'est une bonne nouvelle, ça.
Ouais.
Ok. Donc, pour l'année prochaine, Maxime, toujours MX2 jusqu'à ton âge et ensuite MXGP.
Ouais, c'est ça. Toujours MX2 l'année prochaine et puis après... on verra en fonction de comment se passe l'année prochaine. Je referai certainement encore une année derrière. Donc on est reparti pour au moins deux ans MX2 et après on verra en fonction des opportunités pour les MXGP.
Parce qu'en MX2, bon, tu peux gagner des places étant donné que Prado part en MXGP. Ouais. Et puis, Prado vraiment, il a survolé la saison.
Ouais, c'est sûr, Prado a été vraiment au-dessus du lot cette année, il a été très fort. Il a gagné toutes les manches auxquelles il a participé. Donc c'était vraiment le meilleur. Après il disposait vraiment du bon matériel, des meilleures motos entre guillemets pour le moment en MX2. Maintenant que je dispose des moteurs officiels Yamaha, je vais dire que je m'en rapproche très fortement. Que ces moteurs-là vont vraiment me permettre de me bagarrer donc avec Tom Vial l'année prochaine qui disposera des 4 Red Bull. Je pars quasi à armes égales avec eux, avec lui pour l'année prochaine et il n'y aura plus de cette différence qu'il y avait cette année.
D'accord. Mais écoute, tu sais que nous, ici, dans la région du Nord, on est près de la Belgique, on te suit pas à pas, tour de roue par tour de roue, Maxime.
Ouais.
L'Italie, il fait bon ?
Ouais, ça va, il n'y a plus beaucoup, mais maintenant ça s'est arrêté, on a eu deux belles journées de soleil et ça y est, c'est reparti pour du beau temps.
Et les pâtes sont bonnes ?
Ouais, les pâtes sont bonnes et les pizzas aussi, mais malheureusement les pizzas, j'ai pas trop le droit.
Ah bon ? Et les filles ? Et les filles ?
Ah, les filles, j'ai pas trop le droit de regarder.
Ah, non plus, dis donc.
C'est vraiment de plein.
Maxime, on te souhaite bonne chance pour 2020 et on aura l'occasion de se recontacter en direct sur la radio. Maxime, salut.
On se contacte l'année prochaine.
Ok.
Ça marche. Allez,
salut.
Bonne soirée.
À toi aussi.
Au revoir.
Salut.
Au revoir.
Voilà, au téléphone, on retrouve Éric Poiret, qui est auteur d'un livre sur les 45 ans de l'enduro du Touquet.
Bonjour Éric. Tu as sorti un livre sur le Touquet. Tu as mis, je crois, 3 ans et demi à retrouver toutes les épreuves, toutes les années. Et dans ce livre, qui fait quand même 300 pages, comment tu as pondu ça? Comment c'est venu à faire un livre sur cette course mythique?
Eh bien moi en fait je suis né dans le bassin minier en fait à Liévin et j'ai passé ma petite enfance dans le Pas-de-Calais, voilà, dans le bassin minier. Et en fait mes grands-parents sont partis sur la côte d'Opale en 79, et j'ai découvert l'enduro en 1980, donc j'ai vu mon premier enduro dans les dunes de Merlimont.
D'accord.
Et de là, j'ai toujours aimé cette course-là, quoi. On y allait tous les ans avec les parents, et puis petit à petit, je suis vraiment devenu un passionné de l'épreuve, et j'ai commencé à conserver les archives. Et le carton a grossi, et récemment, donc, enfin récemment, c'est il y a 3 ans et demi maintenant, mais en 2015, m'est venue l'idée de compiler un petit peu toutes ces archives pour faire un livre, faire partager un peu la passion à tout le monde. Je pense que l'épreuve le mérite, parce que c'est quand même une épreuve mythique. Donc voilà, il n'y avait pas de livre sur l'histoire de l'enduro, je trouvais ça un peu injuste. Et bon, j'avais envie de le faire, donc voilà, j'ai travaillé pour ça.
D'accord.
Maintenant, le bouquin est sorti.
Et c'est de toute façon un excellent cadeau de Noël pour le Père Noël.
Oui, bien sûr, tous les passionnés. J'espère.
C'est certain. Mais c'est vrai que bon, je l'ai feuilleté et j'ai vu que chaque année, il y a à peu près 3-4 pages. C'est vraiment bien expliqué les courses et les anecdotes. Et c'est là que j'ai appris qu'il y avait même un pilote chinois. C'est une chose que j'ignorais, toi.
Bah c'est sûr que moi, en dépouillant les archives, j'ai découvert pas mal d'anecdotes.
Et d'ailleurs, j'avoue que moi-même, au départ, je ne savais pas qu'il y avait un pilote chinois, mais bref, l'anecdote est amusante, parce que bon, des Chinois ben, qui viennent courir par chez nous, il n'y en a pas beaucoup. Hein. Et pour preuve, hein, sur toute l'histoire de l'enduro, il n'y en a qu'un seul. Et voilà, donc il y a plein de petites anecdotes à découvrir, et moi-même, j'en ai découvert pas mal.
D'accord. Et toi, tu n'as jamais roulé à l'enduro, par exemple. Et tu m'avais dit que tu n'avais pas le permis, d'ailleurs, même.
Ah ben voilà, c'est ça, ouais. C'est un peu surprenant pour pas mal de monde, mais moi, j'ai pas le permis moto, non. Donc, j'ai roulé un peu en scooter récemment, mais ça ne s'est pas bien passé. Ah. Ça coûtait un rétro à mon beau-frère, donc voilà.
Oh, ben c'est dans la famille,
donc, ça. Donc, je ne suis pas prêt de le faire, en fait. Hein. Voilà, mais bon, je vais rester à ma place, un passionné de l'épreuve, et puis... voilà, mais bon, on sait jamais, hein. Peut-être un jour pour mes 50 ans ou quelque chose comme ça, peut-être me lancerai un défi.
Et tu as trouvé quand même des documents assez facilement ou tu as frappé à plusieurs portes quand même pour avoir...
Oui. En fait, moi j'ai beaucoup de documentation, donc déjà à titre personnel, au niveau des journaux, des magazines. Et puis pour compléter tout ça, bon, j'ai aussi des pas mal d'archives vidéo. Donc ça m'a permis d'étoffer un petit peu les données, mais j'ai aussi pas mal de renseignements par la mairie du Touquet qui m'a bien aidé, notamment pour les archives des Échos du Touquet, qui est un magazine local en fait, hein, enfin un petit journal local pardon. Donc les archives de la mairie m'ont aidé, la société académique aussi du Touquet, Monsieur Oluig, qui m'a beaucoup aidé sur des documents. Et puis voilà, après, c'est surtout au niveau des photos, il y a eu beaucoup de recherches. Et pour ça, j'ai eu l'aide du photographe Michel Mindru.
Qui est photographe officiel de cette épreuve.
Voilà, il suit l'épreuve depuis 1977. Donc il y a quand même pas mal de choses à montrer. Et la difficulté, c'était que c'était des négatifs. Donc, j'ai cherché un petit peu dans les négatifs, j'ai fouillé pour trouver un peu ce que je voulais. Bon, c'est un long travail. Et voilà, donc j'ai trouvé pas mal de choses intéressantes à ce niveau-là.
Ok, j'ai vu que tu as fouillé aussi dans Mes Motocross, parce que figure-toi que dans les studios, on a un représentant de Mes Motocross. C'est pas Gilou, hein.
Non.
Parce que Gilou, crois qu'il t'a envoyé un petit mot, je crois.
Tout à fait, tout à fait.
Ah, parce que je l'avais contacté, c'est là que parce que j'avais retrouvé sur la liste des remerciements son adresse, et je dis bon ben faut que je le prévienne.
Oui, et Gilou n'est pas un spécialiste du sable en plus.
Oui,
c'est pas un spécialiste du sable, par contre son site c'est vraiment je me suis nourri là-dedans pour les palmarès des pilotes, hein, pour faire des allusions. Il n'y a pas que Touquet dans la vie, et puis on a quand même beaucoup de pilotes très très connus qui sont venus rouler.
Ouais, ah, oui, depuis Jacques Fournier qui a commencé. Hein. Ouais.
Bah ouais, voilà, donc ça m'a permis d'aller chercher un petit peu les palmarès. Hein,
alors par contre, j'ai une question à te poser. Le premier enduro de 75, il n'y a eu qu'une manche le matin ou il y en a eu deux d'après toi?
Il n'y a eu qu'une manche.
Il n'y a eu qu'une manche.
Premier enduro. Ouais, ouais. Il y a eu deux manches.
Ça a été longtemps la polémique sur les personnes qui faisaient des recherches là-dessus. Parce qu'après l'année suivante, il y a eu deux manches et puis ça a enchaîné comme ça. Ouais.
Petite précision, j'y étais à la première.
J'y étais.
Ah, ouais. Là, il n'y avait qu'une manche.
Il n'y avait qu'une manche.
Il y avait qu'une manche.
Et le pilote chinois, alors, il roulait sur quelle moto, tu sais?
Ah, il roulait sur un CR Honda.
Ah, Honda CR, d'accord.
Voilà. Voilà, et puis en fait, il est resté coincé dans le goulet hein, pendant un peu trop longtemps, on va dire.
Ah oui, le fameux goulet. Hein.
Alors voilà, il a quand même bouclé un tour, puisqu'il est classé, je crois, à 800 et quelques.
J'ai pas eu l'occasion de voir ton livre, enfin là, je découvre maintenant, mais est-ce qu'on parle des fameux pneus à godet de Brad Lackey?
Ah oui, c'est vrai. Ouais.
Bah, bien sûr.
Parce qu'on en a beaucoup parlé, ces pneus, et je pense que c'est la seule fois où on les a utilisés. Hein.
Ouais, c'est vrai. Ouais. Ouais, c'est vrai.
Ouais, oui, c'est, genre, j'y fais référence hein, parce que c'était vraiment quelque chose d'impressionnant a priori à l'époque pour les autres parce qu'ils se prenaient des gerbes de sable.
Il fallait pas derrière. Hein.
Il n'était pas très très avantagé sur la plage à cause de ça, mais dans les dunes par contre, il rattrapait le temps perdu quoi. Donc c'était un point clé pour lui. C'est très important d'avoir.
Mais surtout bonjour pour ses suivants parce
qu'il
recevait 2-3 kilos de sable à chaque fois quoi. Enfin,
c'est ça.
Godet, quoi.
En plus cette épreuve mythique a quand même Il y a quand même eu tous les grands champions. Il y a Malherbe qui est allé par, qui est passé. Il y a eu Guébourse, il y a eu Gaston Rayet, il y a eu Jacques Yvimont, il y a eu Jacques Van Veldhoven, enfin, Carl Quist aussi.
Carl Quist, on a eu vraiment. Premier étranger à avoir gagné.
Ouais. On a eu vraiment les plus grands champions de motocross. Ouais. Le gratin.
Le gratin, c'est ça. Mmh. Tout le monde est venu par là. Je dirais qu'un des rares pilotes qui a un palmarès énorme, français, qui n'a pas roulé au Touquet, c'est Jean-Michel Bayle. Jean-Michel Bayle n'a pas roulé au Touquet, mais exception faite, une petite course de promo de quad, en fait.
D'accord.
Qui a inventé à l'époque un petit quadruro star, en fait.
Il a fait cette course.
Laurent Fignon, etc.
Ah oui, c'était.
Des gens connus, quoi, Adeline Blondeau.
Il y avait une course pour les journalistes aussi.
C'est celle-là. C'était mêlé, en fait, hein, des journalistes et des vedettes. C'était pour l'association Lorette Fulien, là.
Jean-Michel
Bayle avait roulé et, bien évidemment, avait gagné. Parce que son adversaire n'était pas au niveau non plus. Il avait gagné, en tout cas.
Bien. Donc, il y a aussi la préface qui est de 2 pages d'Adrien Van Beveren.
Exact.
Ah, c'est... Exact.
Bon, bah, c'est un honneur pour moi, hein, parce que Adrien a gagné 3 fois l'enduro, certes, mais en plus, c'est quelqu'un qui a l'enduro dans la peau. Donc, d'ailleurs, la préface porte le nom de la course de ma vie. Donc,
ouais, voilà.
Et c'est lui qui l'a faite. Donc, voilà, il a vraiment cette course-là dans le cœur, quoi. Et donc c'était vraiment un honneur pour moi déjà je l'ai rencontré, on a discuté du projet, il était enthousiaste tout de suite.
C'est quelqu'un qui est très ouvert d'ailleurs là-dessus.
Bien sûr, je l'ai revu à Berck là au mois d'octobre pour le Beach Cross et on a rediscuté de tout ça et puis bon, il était pressé de découvrir le livre un peu comme
d'accord.
Comme ceux qui ont tourné un peu autour du projet.
C'est une excellente idée d'avoir fait ce livre, c'est vrai que ça manquait. Ouais.
Donc tu l'as dédicacé à Adrien Van Beveren, ce livre, alors.
Pour l'instant, j'avoue franchement que j'ai pas encore eu l'occasion de le revoir depuis la sortie du livre, parce que là, il est très occupé pour son objectif personnel,
Dakar.
Il a laissé le Touquet un peu de côté, mais bon, maintenant c'est le Dakar son objectif.
Ouais. Je l'ai vu à la U Arena il y a un mois. Il est venu faire un petit tour d'honneur et puis.
Voilà,
c'est ce qu'il a
fait aussi plus ou moins à Berck, hein. Il a roulé un petit peu avec la moto de Dakar, donc
voilà,
j'ai profité pour le revoir à ce moment-là, mais pour l'instant, on ne s'est pas encore revu, on va dire.
D'accord.
Mais bon, on se reverra au début février, si tout va bien.
D'accord. Donc, je rappelle le Touquet, 45 ans d'enduro par Éric Poiret, préface d'Adrien Van Beveren. Et puis, excellent cadeau pour Noël. Et c'est aux éditions Solar. Et puis, le prix, c'est 24,90. C'est-à-dire une paille pour un livre comme ça.
On a essayé de faire un bel objet, abordable, un prix abordable. Donc, j'espère qu'on a... Je pense qu'on a... On a atteint notre objectif.
Oui, tout à fait.
Les premiers retours sur le livre en lui-même... sont bons et puis même sur le contenu, hein, je reçois énormément de messages. J'ai créé une page Facebook qui s'appelle Le Touquet 45 ans d'enduro aux éditions Solar.
D'accord.
Donc là-dessus, il y a beaucoup de personnes abonnées, sûrement quelques-uns des auditeurs là. Donc j'en profite pour les remercier.
Bah, j'irai dès demain sur ta page.
Ah, c'est gentil. Et puis
tout le monde d'ailleurs.
Et puis voilà. Donc pour l'instant, l'accueil est plutôt bon, mais faut que ça continue comme ça, quoi.
Ok. Eh bien, écoute, Eric, on te remercie de...
C'est moi qui vous remercie.
Hein, de parler de ton bouquin, parce que, bon, c'est vrai que ce bouquin, il y a eu quand même un certain journal de la région avait sorti un
numéro spécial, c'était ça.
Mais c'était,
il y avait la Voix du Nord, il y avait des petits... Mm-hmm. Ouais,
je nomme personne.
Ah, ouais. Non, d'accord. Je nomme personne.
C'est vrai qu'il y a eu un petit supplément d'un journal régional
qui était sorti en 2008.
Il me semble.
Mais on ne le nomme pas.
C'était plutôt axé photo, en fait. Voilà, mais qui n'entrait pas vraiment dans le détail de toute l'histoire, de la genèse de l'épreuve, etc. Donc moi, j'ai souhaité aller jusqu'aux origines de la course et rencontrer ou interroger les acteurs de l'époque.
Et j'espère et que tu sors.
Pour ceux qui ne le savent pas, du pré-enduro qui a eu lieu en 1974, un an avant le premier. Voilà. Ah ouais. Je ne vais pas tout dévoiler. Il y a des choses intéressantes à lire pour les plus passionnés. Donc, je ne vais pas tout dévoiler. Mais bon, voilà, c'était très intéressant et très enrichissant. Et ça a donné lieu à des très belles rencontres, beaucoup d'échanges.
Bon, voilà. Écoute, on te souhaite aussi de sortir pour les 50 ans. Alors, tu rajoutes aux 5 années. Eric, on te remercie.
Merci. C'est moi encore une fois qui vous remercie. Ouais.
Ok. Et puis, écoute, tu sais que. Si jamais tu sors un autre livre, les micros sont ouverts pour en parler. Ok ?
C'est gentil. Merci à vous.
Ok, Eric, salut.
À bientôt. Au revoir. Au revoir.
Les 20 ans du calendrier des motoclubs.
Kikinko vous invite à la sortie officielle du calendrier 2020.
Ça se passera le samedi 11 janvier.
Dès 19h au Trianon sur le village moto de Seclin.
Enregistrement de l'émission en direct.
Présence des motoclubs.
Concert avec Monsieur Max.
Qui rentrera d'une tournée en Allemagne avec un nouvel album.
Plus d'infos sur le site internet k1c.free.fr.
Et sur le Facebook Kikinko.
Et au téléphone, on retrouve Kevin Frélo qui va nous parler de son site dédié au motocross.
Ouais, salut Kevin.
Oui, bonjour Guy.
Ouais, salut. Ouais, donc on s'est rencontrés cette année à Saint-Jean-d'Angély. Tu débutais dans ce milieu à cette époque, non ?
Oui, c'est ça. Alors du coup, Saint-Jean-d'Angély, j'ai plus exactement la date. Moi, j'ai ouvert du coup mon site Daily Motocross en janvier, juste un petit peu avant l'ouverture du Supercross Anaheim 1, du coup.
D'accord.
Et Saint-Jean-d'Angély, c'était mon premier Grand Prix, effectivement, plus en tant que spectateur, mais du coup en tant que média pour faire mes propres articles, quoi.
Donc, il y a plusieurs journalistes qui t'ont aidé, d'ailleurs, comme Pascal Audiquer. Où aller, où faire les photos, etc., non ?
Du coup, Pascal, il a été vraiment super avec moi. Il a été vraiment génial avec sa femme Catherine aussi.
Catherine, ouais.
C'est vrai que quand je suis arrivé là-bas, j'étais un petit peu perdu, pour être honnête. Et Pascal m'a vraiment bien aiguillé au début, voilà, ce qu'il fallait faire, ce qu'il fallait surtout ne pas faire. Il m'a donné pas mal de conseils. C'était vraiment sympa de sa part, parce que c'est vrai que quand on est lancé tout seul un peu dans le bain comme ça, c'est pas évident.
Alors, c'est depuis combien de temps que tu as sorti Daily MX depuis cette année, alors
Ouais, alors du coup, c'est ça. J'étais vraiment en réflexion quand est-ce que j'allais vraiment faire ce projet que j'avais en tête depuis pas mal de temps. Ça faisait vraiment longtemps que j'y pensais. Et du coup, je me suis lancé vraiment au dernier moment. Un soir, ça m'a pris juste avant l'ouverture du Supercross US. Comme je t'ai dit, je crois que c'était le 4 ou le 5 janvier, et je me suis dit qu'elle allait tenter l'aventure, du coup, qu'on allait voir où ça allait mener. Et écoute, je suis encore là, ça marche plutôt pas mal. Donc là, je vais attaquer la deuxième saison.
D'accord. Et puis c'est vrai que sur ton site, enfin c'est pour les auditeurs, que tu es quand même, enfin pas à la pointe, mais vraiment rapide pour les informations. Je prends l'exemple de Zachary Pichon. Bon, bah, c'est déjà sur ton site. Hein, alors que c'était aussi sur d'autres sites, mais bon, tu réagis assez rapidement, quoi, sur les informations.
Oui, je pense que la réactivité, enfin pour moi, c'est quelque chose sur quoi je table. Être réactif, c'est hyper important. C'est forcément ce qui va intéresser les gens. Si c'est pour lire des articles qu'ils ont déjà vus ailleurs, ou enfin, si tu leur apprends rien de nouveau, ça va pas spécialement les intéresser. Donc moi, je vise vraiment la réactivité. Après aussi, on a l'avantage maintenant avec toutes les nouvelles technologies, les réseaux sociaux, les informations se partagent très 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 vite. Alors d'aujourd'hui, je pense que c'est plus comme avant le journalisme que toi tu as pu connaître sur les circuits à l'époque.
Ouais.
Donc aujourd'hui, c'est vrai que c'est très simple en quelques clics de trouver une information et de relayer une information. Donc il faut être rapide, c'est sûr, il faut être rapide. Et puis de l'autre côté, il y a aussi un petit jeu de compétition. Je suis pas le seul sur le marché, on va dire, donc il y a un petit peu cet aspect-là aussi à prendre en compte.
Cette année, tu as fait quand même plusieurs grands prix. Enfin, peut-être pas la Chine ni l'Indonésie, mais l'Europe.
J'aimerais bien aller en Chine, en Indonésie. Malheureusement, c'est un peu trop onéreux encore pour moi. J'ai fait Saint-Jean-d'Angély. J'ai fait Torricento, le Grand Prix d'Allemagne. Je suis allé à Loket en République Tchèque. J'ai fait le motocross des nations d'Assen, du coup.
D'accord.
Et là, je reviens du Supercross de Barcelone, et j'ai fait le Supercross de Paris aussi.
D'accord. Donc, du travail sur la planche, hein, enfin du boulot sur la planche, sur le site.
Là, j'en parlais avec Gilles, justement, il me disait, mais tu dois pas dormir beaucoup. Là, c'est l'intersaison, donc c'est vrai que c'est un peu plus calme, mais finalement, on se rend assez vite compte qu'en dehors du championnat du monde, ou même de l'élite, le national, le Supercross US, il y a quand même pas mal de sujets à aborder. Il y a aussi les épreuves internationales, et puis du coup la période un peu plus creuse, ça permet de faire des interviews un peu sur des pilotes, avec des équipes, tout ça, ça permet de creuser un peu plus certains sujets. Donc au final, moi c'est un peu l'idée que j'avais quand j'ai créé le site, c'était de faire comme dans les autres sports, un site qui vraiment on pouvait trouver de l'information 7 jours sur 7, presque 24/24 en gros. Donc c'est sûr que les journées où c'est un petit peu plus calme, de toute façon, moi je travaille pour faire des sujets un peu plus simples, plus intéressants, et quand j'ai le temps, c'est sûr.
Pas toujours évident de trouver le temps. Il y a une question,
j'ai une question à te poser. Je voudrais savoir qu'est-ce qui t'a donné envie de faire quelque chose sur le motocross. D'où vient cette envie pour le motocross?
Alors moi, le motocross, c'est une passion depuis que je suis vraiment gamin. J'ai été mis dedans un peu par hasard. J'ai eu la chance d'en faire dans ma jeunesse grâce à mes parents. Après, j'ai déjà un petit peu décroché. J'étais pas vraiment une poudre de guerre en moto. J'ai fait des catégories éducatives en championnat de France. Après, j'ai un petit peu décroché, mais j'ai toujours vécu ma passion en regardant les courses, en m'intéressant beaucoup à ce qui se passait, aux actualités, tout ça sur Internet. Et un jour, bah, je me suis dit que j'aimerais bien, moi, avoir effectivement ce que... Enfin, je voulais créer quelque chose que je ne trouvais pas sur Internet. Ouais. Et je me suis dit, bah, si moi, je le trouve pas, est-ce que moi, je peux pas peut-être prendre ce créneau et le faire moi-même ? Et c'était vraiment l'idée de couvrir D'accord. un petit peu tout ce qui se passait, que ce soit en Europe, sur le mondial, aux États-Unis, ça tous les jours de l'année.
Tout à l'heure, on parlait de toi avec Gilou, et parce qu'il t'a rencontré, il m'a dit il est tout jeune, il a 24, 25 ans, il dit c'est un passionné, il doit passer un temps pas possible sur sa page, sur son site. Et puis, et moi, c'est vrai que j'y vais assez souvent. J'ai même remarqué que. Au niveau amis, je crois que tu étais à 5000 amis sur Facebook, donc c'était saturé, la page était saturée en demande d'amis. Et puis, c'est révélateur.
Et j'ai même été... Ouais, alors du coup, j'ai aussi... en fait, j'avais créé cette page Facebook, c'était au tout début, comme j'ai dit tout à l'heure, je n'avais pas trop... je ne savais pas exactement comment ça allait fonctionner, donc j'avais simplement créé une page amis sur Facebook. Qui effectivement très vite était rempli, et du coup j'ai dû créer une page à côté. Du coup,
ouais, il y a Daily et Daily Motocross et Daily FR, je crois, un truc comme ça.
Ouais, voilà,
il y en a deux.
Ça. Et il y en a une où on est à 24 000, et il y a le compte Ami où effectivement on est plus à 5 000, mais j'utilise encore les deux parce que
et elle est plafonnée,
les gens n'ont pas forcément fait la jonction d'une page à l'autre.
Oui, je me suis même demandé, je dis, mais pourquoi il y en a deux, j'avais pas compris. Alors par contre,
il y en aura plus qu'une la saison prochaine. Vas-y.
J'ai été surpris parce que j'ai vu une vidéo il y a un jour ou deux, et en fait c'est Ryan Dungey qui coupe en deux James Stewart. Je sais pas si ça te dit quelque chose cette vidéo.
Peut-être,
il y a deux, c'est une course qui a dû, elle a eu lieu il y a peut-être 2 ou 3 ans.
Okay.
Et en fait, j'ai été surpris de voir que tu avais récupéré la vidéo parce que cette vidéo, elle avait été enlevée.
Ok.
Et je me suis dit, chapeau, parce que moi, plusieurs fois, je voulais voir cette vidéo pour savoir si c'était une agression, entre guillemets, ou si c'était... et j'avais jamais pu la rediffuser. Et toi, t'as réussi à la retrouver sur le site. Je ne sais pas comment t'as fait, mais bravo.
Okay. Je te remercie. Je t'avoue que ça ne me parle pas là tout de suite parce que j'en fais tellement.
Moi, je l'ai vu il y a 2 jours. Alors, je ne sais pas si c'est quelqu'un qui a remis le lien. Je ne sais pas trop comment ça se passe. Mais moi, je l'ai eu sur ma page. J'ai regardé. Okay. J'ai dit waouh. J'ai dit où il a trouvé ça parce que. Enfin, voilà.
Ok. Écoute, Kevin, aujourd'hui, on a beaucoup d'invités. On aura l'occasion de se recontacter. Et comme on mettra l'adresse mail de ton site Daily MX sur notre forum et sur notre page Facebook.
Bah, okay. Super, merci. Ça marche.
Ok, on te remercie, Kevin.
Bah, je vous remercie.
Allez, on se verra l'année prochaine.
Oui, on se verra sur un Grand Prix, probablement.
D'accord, à la salle de presse, avec des boissons et des sandwichs.
Moi, j'irai certainement à l'Omel, mais je ne vais pas en salle de presse.
moi, j'en sors assez souvent. On aura l'occasion de se croiser.
Ok.
Ok. Allez, salut, Kevin. Merci.
Bonne soirée.
Out on the road, feeling safe.
on a Pascal Audicaire qui est à l'antenne, qui commente le calendrier 2020 MXGP MX2.
Oui, bonjour Pascal.
Salut Guy.
Salut. Un peu de retard, malheureusement. Tu sais, bon, il y a les grèves, etc. Et écoute, t'essaies de parler moins que en tant que Gilou.
Ah, ça va être facile, c'est, parce que j'ai où la
c'est possible.
Heures, donc,
c'est
ouais,
possible.
Ça va être facile.
Ah bon,
facile.
D'accord. Ouais, donc on va parler du calendrier 2020 MXGP MX2. Il y a toujours 20 épreuves. Est-ce que 20 épreuves, c'est quand même beaucoup, non, d'après toi?
Alors c'est beaucoup, c'est trop pour tous les teams, et aussi pour pas mal de pilotes, mais pour le promoteur du championnat qui a le dernier mot, bah, 20 c'est l'équilibre parfait pour lui, et il a dit qu'il n'ira pas au-delà de 20, mais il ne veut pas descendre en dessous. Enfin, cette année on n'a eu que 18 Grands Prix, puisqu'il y a eu 2 Grands Prix qui ont été annulés, mais la Suisse et Hong Kong, mais là il est repassé un calendrier à 20 Grands Prix. 20 c'est bien pour lui, parce qu'il peut mieux amortir tous ses moyens de production notamment, et son personnel. Par contre pour les pilotes c'est beaucoup, pour les teams aussi, parce que surtout qu'il y a beaucoup de déplacements lointains. Et l'autre problème qu'on a vu cette année, c'est aussi le problème des blessures, parce que quand un pilote se petit peu mal sur un Grand Prix, il n'a pas de temps pour récupérer, se soigner et revenir, puisqu'il y a un Grand Prix le week-end d'après ou 2 semaines après, ce qui fait que, eh ben, à un moment on l'a vu avec Chiaroli, hein, Chiaroli s'est fait un petit peu mal, il a été obligé de continuer, et puis finalement à un moment ben, il s'est fait très mal, parce qu'il n'était pas en pleine possession de ses moyens physiques, donc c'est dangereux, mais pour en avoir discuté encore récemment avec David Longo, le promoteur du championnat, lui il démord pas des 20 Grands Prix, donc... On en a 20 l'année prochaine à nouveau, Guy.
Et par exemple, le Qatar a disparu?
Oui, le Qatar a disparu, parce que le Qatar, c'est pareil, c'est des grands prix particuliers. C'est un grand prix que l'Émirat voulait pour la notoriété du pays et voilà. Tout. Et puis à un moment, il y a eu un changement de président de la Fédération des sports mécaniques au Qatar. Et le nouveau président n'était pas intéressé par le motocross, il est plus intéressé par le MotoGP, le Superbike et la voiture. Et ben donc, il a laissé tomber le motocross. C'est un peu pour l'instant, ils viennent de reconfirmer que ça durait, mais on a un peu le même cas pour la Turquie. La Turquie a fait un grand prix pour donner un peu une bonne image de son pays.
Ouais, ouais, pour
c'est un pays qui a une culture sport mécanique. Enfin, au moins motocross. En vitesse, ils ont des pilotes qui vont bien, puisqu'ils ont eu des champions du monde super sport. Mais bon, voilà, c'est comme ça. Écoute, on avait parlé peut-être de l'Arabie Saoudite, il n'y a pas. Peut-être qu'un jour on ira. C'est pas des pays qui ont une culture de la moto, mais qui veulent une épreuve de championnat du monde, et parfois le motocross, c'est ce qui est l'épreuve de championnat du monde la plus abordable financièrement pour eux.
D'accord. Et aussi, la question d'un double Grand Prix en Indonésie. Et comment...
Si tu veux, l'Indonésie, déjà, il faut voir que c'est... je vais dire un chiffre, parce que c'est une erreur peut-être, c'est tellement que ça, je crois que c'est 6 millions de roues qui vendent tous les ans. Alors, c'est pas des motos de cross, hein, c'est des deux roues, puisque Honda et Yamaha ont des usines en Indonésie, donc tout le monde, énormément de gens roulent en deux roues, donc c'est un gros pays pour l'industrie du deux roues. L'Indonésie, il y a beaucoup de villes qui sont candidates à accueillir un championnat du monde, donc eh ben, si tu veux, le promoteur, il a des gens qui veulent le championnat, qui sont prêts à faire un chèque conséquent, et eh ben on y va pour 2 Grands Prix, donc on a eu 2 Grands Prix cette année. Il y en a eu un qui est sur un très beau circuit, l'autre c'est un peu plus compliqué, ça a été compliqué à mettre en œuvre. Et là maintenant, on retourne à nouveau pour 2 Grands Prix l'année prochaine, dont un à Jakarta. Donc logiquement, Jakarta c'est une capitale où il y a énormément d'habitants. On peut penser qu'il y aura beaucoup de monde. Voilà, c'est officiellement c'est l'industrie qui veut. En réalité, c'est surtout des villes qui veulent accueillir le championnat du monde et qui sont prêtes à payer pour ça, pour se faire connaître. Donc on va retourner 2 fois en Indonésie. Écoute, ouais. Si la piste est belle, comme on a eu une des 2 pistes assez marrantes, ben, les gens y vont. De toute façon, tu as fait 10 ou 12 heures d'avion, tu restes pour une semaine, pour un week-end, enfin 4-5 jours ou pour 2 semaines. Bon, ben voilà, c'est parti.
D'accord. Pascal, pour un Grand Prix Indonésie, comme ça, le prix d'entrée, ça représente quoi par rapport au salaire de...
C'est pas excessivement cher. C'est pas excessivement cher. Le problème, si eux, c'est où c'est situé. Assez marrant, par exemple, il y a de l'ordre de 12-15 000 spectateurs, si tu veux. Donc, ouais. j'ai plus en tête la valeur du billet d'entrée, mais ça reste abordable. Tu vois bien les gens, tu vois bien que c'est pas des gens qui ont des moyens. Alors, ceux qui ont des moyens, bien sûr, ils vont dans les tribunes VIP, mais il y a du public. Et, alors, ils sont pas forcément aux meilleurs endroits au bord du circuit. Non, c'est abordable pour ceux qui veulent. Après, c'est une question de promotion. C'est marrant que c'est une grande ville, il y a du monde tout le temps, et 12-15 000. On était allé à d'autres endroits où il y avait 3000 personnes. Donc,
donc on est appelé à avoir des grands prix aussi, par exemple au Vietnam, parce que c'est un endroit où il y a énormément de scooters. À Ho Chi Minh Ville, il y a 9 millions de personnes qui roulent en scooter pour 10 millions d'habitants. Hein.
Après, le problème, si tu veux, c'est que on peut pas non plus aller trop long, trop souvent dans les pays lointains, parce qu'à un moment, il y a une question de budget qui se pose. Donc, le promoteur a dit, normalement, c'est 5 à 6 grands prix, ce qu'on appelle les overseas, donc on y va en avion. C'est 5 à 6 sur un calendrier de 20, il veut garder des dates en Europe. Donc, si tu veux, si demain l'Indonésie dit on fait plus, peut-être qu'on ira au Vietnam, peut-être qu'on ira dans un autre pays émergent. Voilà, c'est la loi de l'offre et la demande là, qui rentre en jeu.
Par contre, j'ai une autre petite question. Est-ce que tu sais si Suzuki pourrait revenir d'ici un an ou deux ou pas?
Pour l'instant, non. Ils avaient, quand ils ont arrêté la compétition, ils avaient signé une... Stéphane Evers avait le contrat de longue durée avec Suzuki.
Ouais.
Ils ont signé une clause dans le contrat de cette année. Ils ne pouvaient pas revenir avant 2021.
D'accord.
Donc 2020, c'est sûr qu'il n'y aura pas de Suzuki. 2021, peut-être qu'il y aura. Maintenant, ce qui se dit dans les coulisses, c'est que le MotoGP leur coûte énormément cher. Et à un moment, la notoriété et les retombées du MotoGP sont plus conséquentes que celles du motocross.
Mmh.
Après, on avait pensé à un moment, Jackie Martin, ça a été lâché par Vinus Varlin. On pensait que Jackie Martin allait revenir avec des Suzuki, mais ça n'a pas été le cas à cause de cette clause de non-retour avant 2021. Après, les Japonais, ils sont un peu... ils prennent des décisions parfois brutales, comme le font les Français. Quand on voit Peugeot ou Citroën en rallye, ou Peugeot au Mans, ils ont arrêté du jour au lendemain. Citroën vient d'arrêter le WRC du jour au lendemain. Les Japonais ont fait pareil. Ils sont peut-être capables de revenir, mais le marché de la moto de cross pour Suzuki n'est pas le marché prédominant. Donc c'est clair qu'il y a, pour Suzuki, il y a la vitesse, et puis après il y a l'endurance, le Boulder, les 24 heures du Mans qui sont très importants pour eux. Donc on verra, pour l'instant ils ne reviendront pas, c'est sûr, en 2020.
Et tu parlais que du Grand Prix de Suisse, cette année, il n'y a pas eu lieu ou bien...
Non, il n'a pas eu lieu, il n'a pas eu lieu.
Mais il était inscrit.
Il était inscrit pour des raisons écologiques principalement.
Ah d'accord.
À savoir quand même qu'en Suisse, les sports mécaniques sont pas très aimés et il y a très peu de circuits. Il y avait un circuit qui a été créé à côté de Frauenfeld. Et en réalité, ce qui serait passé de l'explication officielle, c'est que tous les ans, ils devaient bâtir de A à Z le circuit. Quand le Grand Prix était terminé, ils devaient tout démolir, y compris les sauts, les obstacles, les apports de terre. À un moment, le club, pour une équipe financière, a demandé à pouvoir conserver au moins les tas de terre pour ce qu'ils avaient amené pour faire des sauts d'une année sur l'autre. Ça a été refusé. L'autre version, c'est qu'il y a eu les riverains qui ont fait une pétition. Et donc, la Suisse, qui est quand même pas un pays... Alors, ils ont de très bons pilotes, parce qu'on a Arnaud Tonu, Jérémy Siwer, notamment Valentin Guillot. Mais malheureusement, on sait que chez eux, les sports mécaniques sont pas très bien lotis et que les contraintes environnementales sont bien plus compliquées que chez nous. Donc, il n'y a pas eu de Grand Prix de Suisse.
Mais
il a été éventuellement question au pré-calendrier qu'il y en a en 2020. Il a disparu du pré-calendrier. D'accord.
Mais tu dis, c'est vrai qu'il y a des bons pilotes. Et en plus, c'est le siège de la Fédération internationale. Tu vois, c'est quand même bizarre, quoi.
On est complètement d'accord. On est complètement d'accord.
Ah, et puis bon.
D'ailleurs, il faut quand même savoir que les Suisses font beaucoup d'épreuves de championnat de Suisse en France. Hein.
Ah ouais, ouais,
c'est vrai. Les Écos, tous les ans, font des épreuves de championnat suisse parce que ils ont très peu de terrain chez eux. Ils ont moins de superficie, moins grand que la France. Ils ont des montagnes aussi, ils ont des lacs. Et là où il y a un peu de place, et ben les gens n'aiment pas trop le bruit. Ils sont peut-être encore plus verts que chez nous.
Ah c'est certain, ouais. Bon, bah écoute.
Mais bon, quitte à noter, l'année prochaine, qu'on a deux grands rendez-vous, un Grand Prix de France et le Motocross des Nations.
Oui, alors Saint-Jean d'Angély le 8 mai. Et bon, oui. le Motocross des Nations à Ernée, c'est 25 septembre. Et en espérant qu'il ne va pas pleuvoir.
Oh, mais non, il a fait beau. En 2015, on a eu les Nations à Ernée, il y avait un ciel bleu magnifique. Et il n'y a pas de raison, il faut espérer que... Bien sûr, il faut espérer qu'il fasse beau.
Tu te rappelles l'année dernière qu'ils étaient inondés à peu près... c'était plutôt à la même époque que Saint-Jean d'Angély, hein, mai-juin, là, il y a eu des inondations.
Aujourd'hui, les critères météo, peu de monde maîtrise. Aujourd'hui, il y a quand même eu des gros travaux de Ferney pour justement parer à ce genre d'incident. Après, quand tu vois ce qui se passe dans le sud de la France,
et maintenant, comme
la météo déchaîne, de toute façon, malheureusement, on ne pourra pas faire grand-chose. Mais je suis peut-être plus inquiet pour le Grand Prix d'Angleterre le 1er mars que je suis les Nations fin septembre. Si
et c'est la Fédération française de moto qui a racheté le circuit Ernée, donc maintenant, les travaux vont pouvoir être réalisés.
Alors, le club avait déjà attaqué les travaux en amont. Hein. Ils avaient déjà refait parce que le circuit était impraticable, donc ils avaient quand même... ils avaient fait des avances de trésorerie pour pouvoir remettre le circuit en état et qu'il soit fin prêt pour le mois de septembre.
Tu parlais du Grand Prix d'Angleterre, le premier, mais cette année, c'était l'Angleterre aussi qui a débuté le championnat.
Ah non, on était en Argentine, Guy.
Ah, bon, en deuxième alors.
Ouais, on est revenu en Europe, mais c'est le 15 mars, c'était 15 jours plus tard.
Ah, d'accord. Ceci étant,
L'Angleterre, on ne sait pas rien. La météo aujourd'hui, qui peut prévoir, c'est sûr qu'il ne faut pas y aller au mois de décembre ou au mois de janvier, mais Steve Dixon a posté des photos il y a deux semaines où il faisait un temps magnifique à Materles-Basine. Et le 15 mars cette année, on y est allé. On a eu un temps magnifique pendant tout le week-end, alors que quand ils ont fait le motocross des nations au mois de septembre, il y a quelques années, on a vu de la boue pendant...
Voilà, exactement.
Donc, on va croiser les doigts, quoi.
Ok. Pascal, on te remercie, on parlerait des heures et des heures, mais le temps presse et j'ai eu beaucoup d'invités aujourd'hui, mais on aura l'occasion, dès que tu es libre...
Ça te fera plaisir, Guy, sans problème.
Dès que tu es libre, parce que pour t'avoir, c'est pas facile.
Écoute Guy, il y a 20 Grands Prix, j'ai joué sur tous, les Championnats de France, là je m'en vais, pas ce week-end, mais le week-end d'après, il y a les Championnats de France des Sables à Osgore, après il y a Graillon, il y a le Touquet, donc si tu veux, il n'y a pas que le motocross, donc... C'est vrai qu'on est un petit peu occupé, mais tu sais ce que c'est quand on a une passion, on passe son temps.
Eh bien écoute, on se verra au Touquet.
Ça marche, à bientôt.
Salut Pascal.
Au revoir.
Au revoir.
Voilà, l'émission se termine. Marco, tu reviendras parce que tu voulais parler de Joël Roberts.
Oui, Joël, ouais.
Et tu reviendras le 12, c'est le 12 janvier en fait, prochain rendez-vous. C'était la dernière, Guy, la dernière de 2019.
En effet. Ah,
l'émission du tout-terrain.
Oui. Et ça sera la première le 12.
Ce ne sera pas la première. Ce sera la deuxième,
du tout-terrain.
Ah, du tout-terrain. Voilà. Donc on pourra parler, on aura tout le temps de parler de Joël. Voilà. Quelque chose à rajouter, Guy ?
Eh bien...
Bonne année.
Bonne année.
Bon Noël, bonne année.
T'as écrit quoi ? T'as demandé quoi au Père Noël ?
Je sais pas, j'ai pas encore fait, mais je vais y penser. Je sais pas, écoute, on verra bien. Voilà. Marco, c'est pareil.
C'était sympa. Non, mais.
C'était sympa. Bon, on n'a pas pu avoir une deuxième fois Gilou, parce qu'on le connaît, le Gilou. On ne peut plus l'arrêter quand il commence à parler, alors voilà. Voilà. Et puis, il y avait Philippe Tillemont qui était avec nous, qui nous a bien aidé, en fait, finalement.
Ouais, il a beaucoup parlé.
Bonsoir.
Bonsoir.
Voilà, très bien, merci. Voilà, Guy, donc à l'année prochaine.
À l'année prochaine.
Marco, à l'année prochaine également.
Merci aussi, et puis bonne fête de fin d'année.
Voilà, très bien. Et Laurent, merci pour cette technique et ce programme musical.
À la semaine prochaine.